Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Quel que soit le résultat de ce référendum, cela signifiera qu'à peu près un Britannique sur deux est en désaccord, souhaite quitter l'Union européenne. C'est un fait politique majeur qui s'ajoute aux victoires à Rome, à Turin, de candidates eurosceptiques en Italie, qui s'ajoute à l'élection présidentielle autrichienne. Franchement, il se passe des choses extrêmement intéressantes. C'est un printemps des peuples.
Un printemps des peuples, selon Florian Philippot, vice-président du Front National. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter. L'Union européenne tout entière retient en tout cas son souffle ce soir. On devrait connaître ce soir très tard ou demain matin les résultats du référendum, savoir si le Royaume-Uni reste ou non dans l'Union européenne. Au-delà des effets économiques, sociaux, un Brexit aurait-il aussi un impact politique un peu partout en Europe? C'est ce que croit Florian Philippot et d'autres, puisqu'il croit qu'un Brexit doperait encore un peu plus les discours des partis eurosceptiques qui montent en puissance depuis quelques mois. Alors Brexit, faut-il craindre un effet domino? Jusqu'où? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Béatrice Gibelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure, directrice de l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et vous êtes par ailleurs l'auteur du livre « L'extrême droite en Europe » paru aux éditions La Découverte. Deuxième invité, Jean-Dominique Giuliani, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Fondation Robert Schuman, un centre de recherche français sur les questions européennes. Alors, si vous êtes d'accord, je voudrais qu'on divise l'émission en deux parties. Ce que va changer pour les partis europhobes en cas de victoire du Brexit et ce que cela pourrait changer pour les partis europhobes, eurosceptiques, en cas de victoire du Remain. Alors commençons par l'hypothèse de la victoire demain ou ce soir très tard du Brexit. On apprendrait que le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne. Jean-Dominique Giuliani, est-ce qu'il faudrait s'attendre à une avalanche de propositions dès demain, propositions des eurosceptiques?
Dans le camp des populistes et dans le camp des eurosceptiques qui sont surtout en réalité des destructeurs. Puisque lorsqu'on écoute le langage de Nigel Farage, le patron de l'UKIP, le parti populiste britannique, comme celui de son équivalent néerlandais ou même français, on se fiche éperdument des conséquences de son vote. Ce qu'on veut, c'est donner une leçon aux élites. On veut gagner ce référendum. Il faut qu'à Londres et à Bruxelles, on comprenne que ça peut plus durer comme ça. C'est ça le message. C'est un message simpliste, un message irresponsable.
Mais
et donc,
vous pensez
il serait, que... il serait vraisemblablement conforté, renforcé, un peu partout en Europe et pas uniquement en Europe parce que c'est toutes les grandes démocraties qui ont le même problème aujourd'hui. La représentation politique est remise en cause par toute une série de phénomènes. Je crois personnellement que l'Union européenne est suffisamment forte pour surmonter un tel choc.
Oui, Jean-Ménique Giuliani, vous nous dites effectivement les discours en sortiraient renforcés, ou par exemple en Europe, puisque pour l'instant on s'intéresse aux conséquences sur les eurosceptiques d'Europe. On parle, vous l'avez dit, de la France, il y a aussi les Pays-Bas qu'on mentionne assez souvent, des pays de l'Est. Vous pensez que ça va se situer où?
Oui, ça va se situer dans les pays membres depuis le début de l'Union européenne, comme la France ou les Pays-Bas. Vous nous avez gratifié des discours un peu délirants de M. Philippot sur le sujet. On voit bien que la réalité des faits ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est vraiment une démarche réellement populiste. On voit bien d'ailleurs qu'elle frappe des pays comme l'Italie, où bien malgré la jeunesse de Matteo Renzi, au bout de 2 ans de pouvoir, il y a le même phénomène. Et puis bien sûr, les Pays-Bas...
Ce qui est intéressant d'ailleurs en Italie, on y reviendra peut-être, mais c'est que l'euroscepticisme vient des deux bords politiques, hein, puisqu'il y a le mouvement 5 étoiles et la Lega Nord, donc plutôt extrême droite et extrême gauche.
Oui, c'est la même chose chez nous. C'est la même chose chez nous. Les électeurs du Front National viennent du Parti communiste et même de la gauche en général, ça. Tout le monde le sait désormais.
Tout au moins du souverainisme de Chevènement.
Alors, Béatrice Gibelin, votre avis sur ce qui se passerait demain matin si on apprend dans la nuit ou tôt dans la matinée qu'effectivement le Brexit a réuni une majorité des électeurs au Royaume-Uni? Est-ce que vous pensez qu'effectivement il va y avoir des discours qui vont être dopés, qu'un peu partout en Europe on va entendre les eurosceptiques se féliciter?
Au niveau des discours, bien sûr. Que les eurosceptiques vont crier victoire, certainement. Mais le discours est une chose. De là à passer du discours véritablement au départ à quitter l'Union européenne, il y a une marge qui est importante. J'ai presque envie de vous dire, n'est pas le Royaume-Uni qui veut dans l'histoire de l'Europe. Depuis le départ, le Royaume-Uni a une position particulière au sein de l'Europe. Il rentre dans l'Union européenne en 73 à sa demande, hein, puisque le général de Gaulle, on s'en souvient, à part deux fois, dit non, ils sont trop insulaires pour rentrer et on ne les prend pas. Mais à sa demande, se rendons compte que effectivement, ce marché qu'était l'Europe, et puis dans les années 70, la situation est quand même un peu difficile pour eux, et qu'au fond, il vaut mieux qu'ils rentrent dans l'Union européenne. Mais toujours, dès le départ, avec un statut qui était négocié. Donc, mais le Royaume-Uni, c'est un grand État, c'est un grand pays. C'est presque 60 millions d'habitants. Ça représente, si vous voulez, au sein du PIB de l'Europe, une part qui est importante. C'est la cinquième économie mondiale. Ça pèse beaucoup plus lourd, excusez-moi, je ne veux vexer personne, mais que les Pays-Bas, que la Pologne, que la Hongrie. C'est-à-dire que si on se préoccupe tant que ça d'une sortie du Royaume-Uni, c'est qu'effectivement, on est prêt à faire des concessions, et on les a faites en février, en discutant avec Cameron, parce que le Royaume-Uni, c'est un poids lourd qui est tout à fait essentiel.
Ce que vous voulez dire, c'est que l'ampleur des débats suscités par ce Brexit serait pas le même si, dans la foulée, par exemple, les Pays-Bas envisageaient eux aussi d'organiser un référendum.
Moi, je le pense. Même si c'est un des pays fondateurs de l'Union européenne. Mais on est, enfin, il faut être prudent, si vous voulez, entre les discours que tiennent des partis populistes et qui se font entendre, qui ont le sens des formules et qui ont des leaders qui parfois médiatiquement surfent sur la vague très très bien. Ça, c'est une chose. Et puis il y a autre chose quand c'est au moment de dire voilà, eh bien, on organise le référendum pour sortir. Même Cameron, quand il a lancé ça pour pouvoir être élu en mai 2015, ne pensait pas être aujourd'hui confronté à cette situation-là. Donc, je ne suis pas du tout convaincue qu'on aurait ce délitement que tout le monde annonce de l'Europe à la suite du s'il y avait le Brexit. Alors, mais on n'y est pas encore au Brexit.
Hein. Non, on a encore quelques heures de suspense, effectivement. Jean-Dominique Giuliani, comment est-ce que vous voyez les choses? Parce qu'il y a quand même des dirigeants qui ont d'ores et déjà dit, si le Brexit l'emporte, il y aura référendum. Il sera difficile de ne pas poser la question à nos populations.
Non, il n'y a pas de dirigeants responsables qui ont dit ça. Il n'y a que des gens dans l'opposition, dans le camp des populistes. Cette instrumentalisation du référendum doit aussi nous faire réfléchir, n'est-ce pas? Il y a eu 57 référendums depuis la création de l'Union européenne, la communauté européenne. Seuls 16 ont été négatifs. Et sur ces 16, tous les référendums, il en a été tenu compte, y compris celui que nous avons tenu en France, où finalement nous avons modifié la Constitution européenne pour ne pas en adopter tous les éléments. Donc tout ça, ce sont des légendes qui visent à faire croire que les peuples sont hostiles à l'Europe. Ce n'est pas vrai. Quand on observe les études d'opinion, on s'aperçoit que les peuples ne veulent pas sortir de l'Europe. Les Grecs veulent rester dans l'euro et imposent à leur gouvernement d'aller accepter. Podemos en Espagne fait la même chose, change son programme. Le gouvernement portugais a accepté les règles européennes. Donc les peuples veulent rester dans l'Europe. Ils ont compris qu'il valait mieux être à plusieurs dans le monde d'aujourd'hui, parce que la taille pertinente, c'est celle du continent. Mais en même temps, ils expriment un mécontentement sur la manière dont ça fonctionne. Et il ne faut pas se tromper. Les classes politiques nous disent que c'est à Bruxelles que ça ne marche pas. Il y a beaucoup à dire sur la manière dont ça marche à Bruxelles. On pourrait faire mieux. Mais c'est dans les capitales des États membres que ça ne marche pas d'abord. Et par exemple en France, où regardez la situation à l'intérieur de l'Allemagne, il y a une vraie remise en cause des décisions de la chancelière, aux Pays-Bas aussi, sans compter que les difficultés que nous rencontrons du fait de la mondialisation imposent les gouvernements de gauche et de droite à faire des politiques quasi identiques, ce qui suscite bien sûr une réaction populiste, sans compter les grandes coalitions qui se multiplient en Europe comme jamais.
Et sur ce que disait à l'instant Béatrice Gibelin, qui nous disait il y a une différence entre les discours et ce qui va se faire, vous pensez, vous aussi, que certains des dirigeants eurosceptiques européens, s'il y a Brexit demain, vont dire oui, bon alors, oui, il y a eu Brexit, mais on va peut-être pas faire un référendum tout de suite, parce que par exemple, en République tchèque, le Premier ministre l'a dit, en cas de Brexit, ce sera difficile dans les années à venir de ne pas consulter. En Autriche, le parti qui a failli briguer, remporter la présidence, a dit aussi aux législateurs législatives, si nous l'emportons, nous mettrons en place un référendum. Il y a quand même des, je ne sais pas si on peut parler de promesses électorales, mais en tout cas des promesses qui sont formulées aujourd'hui.
Vous savez, il y a un âge où les enfants, quand ils grandissent, veulent casser leurs jouets, y compris leurs plus jolis. Et on est un peu dans cet état d'esprit. En réalité, vous savez, c'est très complexe. Imaginons, ce que je ne crois pas, que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. On a estimé, évidemment, de manière un peu approximative, mais qu'il lui faudrait 15 ans pour revoter des lois britanniques identiques aux lois européennes qu'il applique déjà à l'intérieur de son territoire. Donc l'imbrication du droit, des intérêts économiques est telle, ça a été débattu dans la campagne, mais bien sûr tout ça est balayé par des arguments irrationnels, on voit des images d'immigrés, etc., qui vont parfois au-delà des limites du supportable, pour être très franc. C'est tellement complexe, n'est-ce pas, que on peut pas dire ce qui va se passer, et on ne peut pas dire non plus ceux qui restent vont être tentés de jouer la même chose.
Et en même temps, c'est vrai que certains de ces dirigeants eurosceptiques, comme les en Hongrie par exemple, ont commencé à dire il faudra plutôt renégocier les traités. À votre avis, Béatrice Gibelin, on se dirige plutôt vers ce genre d'options politiques?
Vous avez Orban qui a dit clairement aux Anglais non, restez. Surtout, ne faites pas ça, ne votez pas pour le Brexit. Lui-même l'a dit et a payé une page de publicité dans les journaux, dans les tabloïds anglais. Enfin, c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant, ça. Bon, alors, il y a les discours qui sont liés à des situations, je dirais, de rapport de force interne. Et puis, il y a aussi la réalpolitique, le pragmatisme. Alors, ce sont des pays en Europe de l'Est qui ont retrouvé une souveraineté pleine et entière il n'y a pas si longtemps après la chute du mur. Bien. Donc ils sont chatouilleux quant à leur souveraineté et à leur nationalisme. Puis prenons la Hongrie, c'est des pays qui sont profondément blessés dans leur histoire nationale à la suite du traité de Trianon, un pays qui perd les deux tiers de sa population et une très grande partie de son territoire, garde en mémoire constamment comment il est devenu, par la faute, on va dire, des vainqueurs de la guerre, un petit pays. Donc c'est dur, ça. Donc il y a tout un discours qui est tenu comme ça. Mais très sincèrement, je ne pense pas du tout qu'un pays comme la Hongrie ou qu'un pays comme la République tchèque propose demain un référendum pour sortir de l'Europe. Et même s'il le faisait, je pense qu'on serait très surpris du résultat et qu'une grande majorité ou qu'une majorité de la population voudrait rester parce qu'ils savent parfaitement ce qu'ils ont gagné et qu'on remettrait, je finis là-dessus, peut-être à feu et à sang des situations avec des minorités qui, grâce à l'Europe, on arrive à gérer à peu près correctement, même si c'est loin d'être parfait.
Et peut-être attendrait-il aussi de voir comment se passe le Brexit puisque, alors difficile pour l'instant de savoir. On a des projections économiques qui ne sont pas toujours les mêmes selon les bords de ceux qui analysent. Mais si, par exemple, le chômage plongeait, augmentait, la croissance plongeait, ça pourrait aussi être un coup dur pour ceux qui prônent la sortie de l'Union européenne, Jean-Dominique.
Oui, absolument. Ce serait un exemple malheureux. On ne sait pas exactement quelles seront les conséquences. Ce qu'on pense, c'est qu'elles ne seront pas positives. Il y a à peu près un consensus là-dessus et que tout le monde a à y perdre, à commencer par les Britanniques. Je crois que c'est ce qui peut l'emporter dans le scrutin pour convaincre les Britanniques de rester.
Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit ça. Parce que quand on est dans le sentiment et dans le ressentiment, les arguments rationnels ont du mal parfois à se faire entendre. D'une certaine façon, les classes populaires ou classes moyennes de petit niveau qui risquent de voter pour le Brexit ne se rendent pas compte qu'à ce moment-là, elles ouvrent les portes à un libéralisme encore plus marqué, et sans qu'il n'y ait les garde-fous d'une Europe sociale qu'on est obligé de respecter.
L'émotion est plus forte.
Voilà. L'émotion est plus forte que la rationalité.
Le problème, c'est que là, le camp de la rationalité, si je puis dire, se trouve renforcé, pardonnez-moi l'expression, par le drame qui s'est produit avec l'assassinat de Jo Cox, une députée britannique. Donc l'émotion est désormais des deux côtés.
Oui,
et quand on connaît le peuple britannique, c'est quand même un peuple très tolérant, ouvert sur le monde. Je crois que ça va jouer énormément comme une corde de rappel au moment d'aller voter.
Alors, je voudrais qu'on en vienne à la deuxième option, qui semble être celle d'ailleurs que vous privilégiez tous les deux, la victoire du Remain. Donc finalement, les Britanniques resteraient avec nous au sein de l'Union européenne. Est-ce que pour vous, Béatrice Gibelin, ce vote, ce serait le synonyme, une forme de coup d'arrêt pour justement cette poussée eurosceptique qu'on voit un petit peu partout fleurir en Europe?
Ce serait pas forcément un coup d'arrêt, parce que les effets de discours continueront à être dits. On dira, c'est la peur, on a agité,
c'est d'ailleurs ce que disait Florian Philippot en tout début d'émission.
Mais les peuples ont raison contre tout le monde, on continuera tenir ce discours-là. Néanmoins, si le Royaume-Uni, qui est quand même un des grands pays européens, avec un statut particulier depuis le début, j'insiste bien, le Royaume-Uni, c'est pas l'équivalent des autres États qui ont intégré l'Union européenne, donnera à réfléchir à un certain nombre d'États. Prenons les Pays-Bas, qui sont très très proches des
très liés
au Royaume-Uni, et qui sont pour une économie libérale et ouverte. Il est très possible que ça donne effectivement au moins, ça n'arrêtera pas le discours populiste, mais en tout cas les responsables politiques au pouvoir, eux, ils y regarderont en deux fois avant d'embrayer, si vous voulez, sur ce discours-là. Et puis, je pense que pour les pays d'Europe centrale, qui bénéficient considérablement de la circulation, évidemment, des Européens au sein de l'Europe, la première population étrangère à Londres est polonaise en nombre, dans un laps de temps très court. Vous savez,
donc pour eux, ce serait une forme de soulagement, vous voulez dire ?
D'une certaine façon, oui.
Et Jean-Dominique Giuliani, est-ce que, en cas de victoire du Remain, les eurosceptiques du coup d'Europe auraient intérêt à changer de braquet, à ne plus forcément se concentrer sur ces arguments sur l'Europe, pour ou contre l'Europe, in ou out de l'Europe ?
Oui, parce que je crois que c'est largement dépassé dans les opinions publiques. Ce qu'on sent, c'est une volonté que l'Europe fonctionne différemment. Et donc, il y a des débats sur le contenu des politiques, vous venez de les évoquer, il y a des débats sur la pratique politique, la pratique décisionnelle, la démocratie en Europe, le contrôle des décisions qui sont prises à deux niveaux par une commission
qui est déléguée par les États. Quand on voit en France la montée du Front National, on ne peut pas dire non plus que tout le monde soit sûr de vouloir être européen et que sentiment soit de plus en plus partagé.
Si j'ai bien suivi l'actualité, le Front National a ce débat en son sein. Savoir s'il doit carrément choisir la voie Philippot, qui pour l'instant l'a emportée, qui est une voie un peu extrémiste, ou une voie plus raisonnable, d'autres qui disent il faut qu'on accepte l'Union européenne, mais faisons porter nos efforts sur 2-3 sujets précis. Et donc, pour l'instant, ils sont dans la phase un peu extrême. Ce n'est pas le cas de tous les populistes en Europe. On a même, dans les pays nordiques, des partis populistes aux affaires, et qui finalement, une fois aux affaires, baissent d'un ton, si je puis dire. Et l'entrelac des traités, des intérêts économiques est tel que l'image qu'on donne à l'extérieur d'une Europe divisée, etc., ne correspond pas à la réalité. Nous sommes toujours, après la crise que nous venons de vivre, la première puissance économique du monde, devant les États-Unis et la Chine. Nous sommes toujours la première puissance commerciale, le premier marché du monde. Et donc, nous avons encore des atouts qu'on peut, si on les réoriente, si on pratique différemment, qu'on peut absolument valoriser.
Mais donc, pour répondre à cet euroscepticisme, ce qu'il faut, c'est vraiment réformer l'Europe. C'est ça la clé.
Pour y répondre, il y a deux choses. Il faut que les différentes capitale et les différents pouvoirs politiques cessent de rendre Bruxelles responsable de toutes leurs difficultés. Il faut quand même dire que toutes les décisions importantes sont prises à l'unanimité jusqu'à un passé récent, mais par les responsables politiques des différents pays. Mais ils se défaussent constamment en disant c'est Bruxelles.
Donc arrêtez de se défausser sur Bruxelles.
C'est une responsabilité importante. Et la deuxième chose, c'est cesser de présenter l'Europe comme étant un État à part entière, ce qu'elle n'est pas, mais qui est une collection d'États qui partageaient un projet tout à fait exceptionnel, qui n'a jamais existé dans l'histoire, de discuter ensemble pour cesser de se faire la guerre. Ce qui reste aujourd'hui encore un magnifique projet.
Et Jean-Dominique Giuliani est d'accord avec vous, puis il faisait, oui, de la tête. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, à Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, auteur de L'extrême droite en Europe aux éditions La Découverte. Merci à Florence Ponce, à Hélène Avril. Dans un instant, c'est un nouveau journal sur RFI.